ça ou pas? Voilà, je ne sais pas si je vais bien prêcher, mais en tout cas, je vais vous inviter à me suivre comme je fais assez souvent, dans pas mal de textes bibliques, parce que prêcher, effectivement, c'est présenter la parole de Dieu. C'est pas raconter sa vie, c'est pas que, des fois c'est intéressant, des fois ça peut être utile de parler d'expérience, mais c'est avant tout vous inciter, et c'est mon désir le plus cher, c'est que vous tous ici, vous ayez à cœur de lire, relire la parole de Dieu tous les jours, ou chaque fois que vous en avez l'occasion. Je ne dis pas qu'il faut la faire tous les matins en prenant son café, je ne sais pas, il y a des gens qui se fixent des temps parce que c'est plus pratique pour eux, mais ce qui est important, c'est d'aimer cette parole de Dieu. Elle est compliquée, elle est datée, il y a des choses qui ne sont pas de notre époque, il y a beaucoup d'études qui sont faites et elles nous aident à mieux rentrer dedans, mais c'est d'abord et avant tout la parole de notre Dieu qui veut s'adresser à nous parce qu'il nous aime et parce qu'il a un message pour nous aujourd'hui, en 2019. Et on va se dire, mais comment aujourd'hui, on a le message à partir des mêmes textes qui ont peut-être plusieurs centaines d'années, voire plus que ça, s'adresser encore à nous? Eh bien oui, le Seigneur nous parle et il continue à nous parler. Alors la réflexion que je vais proposer ce matin, elle l'a suivie. Le mail que Jean-Haut a envoyé il y a 15 jours, je crois que c'est toujours le lundi en général, il envoie un petit mail. Et dedans, il disait que suite au dimanche qui avait précédé, où je n'étais pas là d'ailleurs, il disait la peur que nous avons est souvent liée à notre peu de foi. C'était dans ton mail. Et tu faisais référence à l'histoire de Pierre qui marchait sur l'eau dans ce mail. Donc je ne sais pas si cette histoire avait été lue pendant le culte ou pas, mais ça m'a fait réfléchir qu'est-ce que c'est que la foi? Ça veut dire quoi? Avoir de la foi? Peu de foi, beaucoup de foi, pas de foi? Et c'est simplement cette réflexion. Alors c'est sûr que la Bible, plusieurs fois, pointe du doigt des gens dont il est dit qu'ils avaient peu de foi, que ce soit quand ils ont été confrontés à des peurs ou des inquiétudes classiques, ordinaires, j'oserais dire, dans le Sermon sur la montagne. À un moment, Jésus dit « Ne vous inquiétez pas pour votre vie, ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. » Et un peu plus loin, il dit « Si Dieu revêt l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ?» Donc notre foi, elle peut s'exercer dans des choses tout à fait ordinaires, même si pour certaines personnes, ces choses ordinaires peuvent être source d'inquiétude ou de difficulté. Et puis, la foi, ça peut être aussi quelque chose qui va nous porter dans des circonstances moins ordinaires ou plus extraordinaires. Alors, il y avait le nombre de récits de tempêtes apaisées ou de choses sur lesquelles Jésus est intervenu, en particulier dans l'évangile c'est toujours dans Matthieu, au chapitre 8, hein, il monte dans la barque et puis il y a une tempête, et puis « Seigneur, réveille-toi, nous périssons. Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Donc là, la foi, elle était sollicitée, elle était souhaitée dans une circonstance extraordinaire. Alors voilà, c'est quoi la foi? Vous connaissez sans doute tous, si je vous dis, qui peut réciter Hébreux 11.1, sans tricher, sans regarder dans ses Bibles, hein? Bon, il y en a un certain nombre qui... Donc on va... Voilà, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, c'est la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc ça, c'est une formule, moi je l'ai apprise, alors je sais pas, c'est Jean-Haut parlait de ce qu'il chantait quand il n'a pas osé dire quel âge, et moi ce verset-là, je sais pas quand est-ce que je l'ai appris. Alors le fait d'apprendre des versets bibliques, c'est utile, mais il faut pas que ça soit des mantras, parce que c'est des mots, des tas de gens, vous allez dans la rue et vous leur dites, mais si, il faut que tu aies la foi, parce que tu sais, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, et la démonstration, celle qu'on voit pas, le gars il va vous regarder avec des yeux comme ça, il parle pas comme moi celui-là, enfin, qu'est-ce qu'il me raconte? D'autant que si on lit la suite du chapitre 11 des Hébreux, qui est le chapitre de la foi, comme on l'appelle souvent, on a des tas d'exemples qui sont étonnants. Pour certains, on dit que des gens se sont engagés par la foi. Noé qui, par la foi, construit une arche. C'est sa foi qui l'a fait agir. Et puis il y en a d'autres, c'est par la foi qu'il leur est arrivé quelque chose. Enoch qui, par la foi, a été enlevé. Bon, c'est quoi? C'est quelque chose qui engage ma volonté ou quelque chose qui m'arrive dessus sans que j'y peux rien? Il y a des exemples, toujours dans le chapitre 11 des Hébreux, où la foi impacte le présent. Abraham, qui par la foi va offrir son fils Isaac en sacrifice. Donc on est bien dans quelque chose là, par la foi il s'est mis en marche. Et puis par la foi qui concerne des événements lointains, par la foi Joseph a donné des ordres pour que ses os soient remontés sur la terre de ses ancêtres et qu'ils soient enterrés en Palestine et non pas laissés en Égypte sur le futur. Il y a des choses qui sont claires. Par la foi, Moïse s'engage aux côtés de son peuple. Par la foi, il abandonne le confort de la cour d'Égypte pour aller combattre auprès de son peuple, pour la libération de son peuple. Et puis des choses qui, pour moi, restent toujours, pourtant après quelques années de lecture de ce chapitre-là, entre autres de la Bible, mais d'un certain nombre d'autres. Par la foi, Rahab, la prostituée, a participé au plan de Dieu. Ça aussi, ça nous étonne quand même. Parce que cette dame, si elle avait accueilli les espions israélites, bon, hein, c'était quand même, elle est quand même décrite comme étant quelqu'un qui était, dont le métier était d'être prostituée. Et pourtant, par la foi, nous est-il dit, quelque part, le Seigneur l'a rencontrée. Alors, comment pouvoir dire que j'ai la foi? Comment pouvoir expliquer ce que ça veut dire la foi? Comment s'assurer que notre foi va durer? Et alors, j'ai un texte que j'aime beaucoup quand on parle de ce thème-là. C'est dans l'évangile de Luc, où Jésus s'adresse à ses disciples, et en particulier à Simon-Pierre, et il dit « Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé, mais moi j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, ou quand tu seras converti, dit certaines versions, affermis tes frères. Moi, j'ai prié pour toi, nous dit Jésus. J'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille pas. » Alors notre foi, elle est toujours fragile. Et on va le voir un peu plus tard. C'est toujours quelque chose de fragile. Et dans notre vie, il y a des moments où on avance et puis des moments où c'est plus dur. Et donc, il y a même des moments où, malheureusement, sans doute, on recule. Mais sachons que ça, c'est une vérité qui doit nous accompagner tout le temps. Non seulement nous sommes appelés, effectivement, à devenir des champions de l'adoration, là, comme Jean vous disait, des gens qui mettent en pratique, des gens qui sont capables de témoigner, comme sa sœur, hein, qui est capable, dans le métro, il n'y a pas de métro à Nancy, mais peut-être ça marche dans le tram aussi, et qui sont capables de dire des choses, par la foi. Mais sachons aussi que, derrière tout ça, nous ne sommes pas seuls, parce que Jésus lui-même prie pour nous, et il veut lui-même soutenir notre foi pour nous aider à avancer. C'est aussi ce que je dis « nous hein, ». Là le texte que je viens de lire dans l'évangile de Luc s'adresse typiquement à Simon-Pierre. Mais je pense qu'on peut se l'appliquer à nous et croire que Jésus prie aussi pour nous. C'est d'ailleurs ce que lui-même dit dans l'évangile de Jean. Vous savez, ce qu'on appelle la prière sacerdotale, l'évangile de Jean au chapitre 17, où c'est un peu l'espèce de testament qui est mis dans la bouche de Jésus. Père, l'heure est venue, voilà, on approche du moment fatidique où Jésus va être mis à mort. Et au verset 9, je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour ceux que tu m'as donnés. Et Jésus prie pour que Dieu protège ses disciples dans les temps qui vont venir. Lorsque j'étais avec eux, je gardais en ton nom ceux que tu m'as donnés. Je les ai préservés, aucun n'est perdu. Maintenant, je vais à toi. Je leur ai donné ta parole, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. Et un peu plus loin, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. C'est nous, c'est vous, c'est toi, c'est moi. Tous ces gens-là, Jésus continue à prier pour nous. Donc notre foi n'a de sens que si nous croyons aussi que nous avons un Dieu qui nous accompagne, y compris qui va prier pour nous. Et le chapitre aux Hébreux dit que Jésus-Christ est vivant pour intercéder pour nous auprès du Père. C'est dans Hébreux au chapitre 7, verset 25. Alors on pourrait dire, mais puisque Jésus prie pour notre foi, ça va bien se passer. Tout va aller comme sur des roulettes. Alors il n'y a qu'à regarder effectivement l'histoire de Pierre dans ce texte que j'ai lu. Vous la connaissez, mais je pense que c'est intéressant de le relire. Simon-Pierre répond à Jésus qui lui dit « Mais j'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille pas. Alors, Seigneur, je suis prêt à aller avec toi en prison et même jusqu'à la mort. » Alors d'abord, Jésus calme son ardeur et lui dit « Mon pauvre Pierre, t'es pas meilleur que les autres. Et moi, je te dis que cette nuit même, tu vas me renier. Cette nuit même, tu auras du mal à tenir ta parole et à tenir d'aplomb. » Effectivement, on voit que Hein, quelques instants après, vous connaissez ce récit où Pierre va, alors, on dit renier, c'est chargé de plein de choses. Qui suis-je pour pointer du doigt Pierre dans cette circonstance, qui a préféré se planquer en quelque sorte, et puis voilà, cacher un petit peu son drapeau pour ne pas être reconnu comme étant un des disciples du Christ, craignant sans doute pour sa vie peut-être. Alors est-ce que c'est de la prudence, de la ruse, de la lâcheté, du manque de foi? Je ne sais pas. En tout cas, il n'a pas pu tenir ce qu'il avait dit. Je tiendrai jusqu'au bout. Vous savez, il y a ce chant qu'on pourra peut-être chanter d'ailleurs après le culte, si Jean est d'accord. Nous tiendrons par la foi. On chante ce chant. Nous tiendrons par la foi. C'est ce que Pierre a dit. Seigneur, je tiendrai par la foi jusqu'au bout. Eh, parle pas trop vite, parce que ça va vite être difficile à tenir. Alors Pierre, après, a éprouvé la tristesse. Il a compris. Et c'est là aussi que nous avons besoin, pour que notre foi grandisse, de regarder de quelle manière le Seigneur nous parle, nous montre, nous enseigne, nous dit là c'était bien et là c'était pas bien. Et donc il faut progresser. Et puis, à la résurrection, Pierre fait partie des premiers qui viennent. Hein, quand les femmes viennent, ils disent on a trouvé le tombeau qui était vide. Alors dans l'évangile de Luc, il est. Donc c'est au chapitre 24, c'est un tout petit peu plus loin. Les paroles des femmes leur apparurent à l'ensemble des disciples comme une niaiserie. Hein, c'est des contes de bonnes femmes, voilà, c'est ça qu'ils disent. Tu parles, elles ont encore rêvé. Mais Pierre se leva et courut au tombeau. Et puis, voilà, il voit qu'effectivement, le tombeau était vide. Et alors l'évangéliste Luc dit, il est retourné chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Il n'en dit pas plus. Par contre, dans l'évangile de Jean, si vous lisez dans Jean au chapitre 20, Pierre court, il court avec Jean. Jean est plus jeune que lui, donc Jean arrive le premier au tombeau. Mais Jean n'ose pas rentrer, et Pierre arrive et rentre. Et il voit les choses. Et il nous est dit qu'après, l'apôtre Jean est rentré, et lui, il a vu, et il a cru. Vous voyez comme la foi marche de façon différente. Les mêmes circonstances, selon les personnes que nous sommes, toutes différentes, chacun avec son histoire, sa capacité de comprendre, de lire les événements qui nous arrivent, de lire ce que le Seigneur veut nous dire, eh bien on va faire un pas, puis l'autre il ne va peut-être pas faire un pas. Hein, comme dans certaines circonstances que nous pouvons connaître. Et puis vous savez, le dernier acte, pour que la foi de Pierre ait pu se consolider suffisamment pour qu'après il remplisse la mission qu'il a remplie, ça a été au bord du lac. Après la mort de Jésus, ils sont un peu déboussolés, donc il faut bien vivre. Ils retournent pêcher parce qu'il fallait bien avoir un peu de quoi nourrir la famille. Et puis il y a quelqu'un qui leur a préparé un casse-croûte sur le bord du lac, hein, qui leur dit, tiens, jetez votre filet là. Et leur Jean dit, mais c'est le Seigneur. Et aussitôt, qu'est-ce qu'il fait, Pierre? Aussi vite qu'il avait été pour dire, Seigneur, je te suivrai jusqu'à la mort, ben là, il plonge, il va retrouver son Seigneur. Donc, ce que je trouve intéressant dans ces récits, et c'est pour ça qu'il faut lire la parole de Dieu souvent, parce que ça nous montre la vie de personnes qui finalement nous ressemblent un peu. Il y a des côtés, des exclamations, des choses extraordinaires, hein, qui sont bien, et puis la vie se montre parfois difficile. Quand Pierre s'est senti en danger, parce qu'on le reconnaissait comme ayant été, si, toi, à ton accent, je vois bien que tu es un Galiléen, et que tu faisais partie de sa troupe, ben là, il n'a qu'une envie, c'est de dire, ben, il est pris de panique. Donc il se planque, mais aussitôt derrière, il comprend qu'il a fait une erreur. Il pleure, et puis il va être capable de retrouver son Seigneur. Et pourtant, quand il va être sur le bord du lac, et qu'ils vont manger le barbecue là, avec les poissons qui ont été préparés par Jésus, à un moment, Jésus, ah, vous connaissez cette histoire, viens avec moi, il faut que je te parle. Pierre, m'aimes-tu plus que ne font ceux-ci? Pierre avait passé son temps à dire, Seigneur, même si tous t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai pas. Moi je serai plus fort, moi je serai plus grand. Jusqu'à la mort, je suis prêt à aller. Et là, Jésus lui dit, attends, mais est-ce que tu m'aimes plus que les autres? Jusqu'où es-tu prêt à... Et voilà. Et Jésus va l'entreprendre pour consolider cette foi. Et après ça, quand on lit le livre des Actes des Apôtres, on voit que Pierre a été quelqu'un qui a marché, qui a bousculé des choses de façon extraordinaire. Il a quand même pu, il a rencontré Corneille, il a pu être parmi ceux qui ont permis que se réalise cette parole. Vous savez, quand au début des Actes, Jésus va être enlevé au ciel et il leur dit, vous annoncerez ma parole à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et Pierre a participé à ce mouvement-là de façon extraordinaire. Et sa foi avait été vraiment renforcé par tout ce qu'il avait vécu, tout ce qu'il avait entendu, compris, tout ce qu'il avait raté aussi, tout ce qu'il avait pu mettre en œuvre. Alors, ça ne répond pas à ma question, qu'est-ce que la foi ? Est-ce que c'est quelque chose que certains ont et que d'autres n'ont pas ? Est-ce que des neurones sont particulièrement équipés chez certains et chez d'autres ? Est-ce qu'il faudrait dire, comme, vous savez, on dit de l'amour, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Est-ce qu'il faudrait dire, il n'y a pas de foi, il n'y a que des preuves de foi ? Formule d'un poète du XXe siècle. Alors sans doute, notre foi se manifeste effectivement par aussi par nos engagements, par des choses concrètes, par des capacités de témoigner, de dire, de vivre différentes. Et c'est ça que signifie ce verset qu'on disait tout à l'heure, l'assurance des choses qu'on espère. S'il y a une assurance, c'est que ça me tient debout, ça me permet de tenir debout. Et même si les circonstances sont difficiles, j'ai cette assurance et on doit pouvoir le voir, que mon assurance m'aide à tenir debout. La conviction de ce qu'on ne voit pas, ça aussi c'est quelque chose qui doit se renforcer en nous. Mais la foi restera quand même quelque chose qui est un peu mystérieux, et comme on l'a dit, pour qu'elle grandisse en nous, eh bien, il faut que petit à petit les circonstances de notre vie nous modèlent, nous forment, nous aident à avancer. Il y a un autre exemple dans l'évangile, d'une séquence là, que l'évangéliste a rassemblée dans l'évangile de Marc, au chapitre 8. On a plusieurs textes les uns derrière les autres. Vous savez, il y a d'abord un texte où il se trouve dans la barque, les disciples, avec Jésus, et puis tout à coup, les disciples se rendent compte qu'ils ont oublié de prendre du pain, et Jésus leur fait un discours en leur disant « Méfiez-vous du levain des pharisiens. » Et les disciples, ils disent « Ah là, ouais, il est en train de nous engueuler parce qu'on n'a pas pris de pain. » Enfin, ils interprètent les choses différemment. Et c'est dans Marc, chapitre 8, les versets 14 et la suite. Et Jésus leur dit « Mais vous comprenez rien. Sortez de vos problèmes matériels. C'est pas de ça que je vous parle. Je vous parle d'autre chose. » Notre foi, des fois, elle a des lenteurs à comprendre. Juste après ça, au verset 22, un peu comme symboliquement, Jésus va rendre la vue à un aveugle. Les disciples, là, ils étaient aveuglés par leur problématique de ne pas avoir pris du pain. Et ils ne voyaient pas que Jésus était en train de leur parler de choses plus élevées, plus importantes, qui concernaient leur vie future, l'avenir, ce qui allait arriver de Jésus et de toute cette troupe. Et donc l'évangéliste Marc place là un récit d'une guérison d'un aveugle, quelqu'un qui, voilà, il était aveugle, il ne pouvait pas voir. Et Jésus va le guérir, et contrairement à d'autres guérisons, cette guérison, c'est pas facile. Il y a des guérisons d'aveugles où Jésus dit un truc et toc aussi sec, les écailles tombent et puis le gars il se lève et il va, etc. Alors que là, Jésus prit l'aveugle par la main, il met de la salive sur les yeux, il lui impose les mains, il dit « Est-ce que tu vois quelque chose? Est-ce que ça marche ?» Et le gars dit « Ah, je vois comme des hommes qui marchent comme des arbres. » Donc il commençait à voir des choses, mais il n'était pas guéri encore. Il était en chemin, mais il n'était pas encore guéri. Et donc Jésus recommence, il met de nouveau la main sur les yeux, et alors après, le gars est guéri. Ce récit de ce miracle que Jésus a fait, placé là par l'évangéliste, je trouve qu'il est très fort pour répondre justement au manque de foi des disciples juste avant, qui du coup s'empêtraient dans des choses tout à fait matérielles, alors que Jésus voulait leur donner autre chose, leur montrer. Et ça montre aussi que c'est des fois, ça peut être compliqué pour que notre foi grandisse. Alors c'est vrai que parfois nous avons peu de foi, mais croyons aussi que le Seigneur prie pour nous, pour que notre foi grandisse, pour que notre foi puisse nous supporter. Juste après ça, dans l'évangile de Marc, on a cet échange où Jésus dit qui pensent les gens que je suis, les uns disent Jean-Baptiste, les autres disent Élie, etc. Et Simon-Pierre, encore lui, alors il était un peu le porte-parole des disciples, sans doute, c'est comme ça qu'on le voit souvent, un peu grande gueule aussi, sans doute, des fois, il parlait des fois un peu trop vite, sans doute, mais en tout cas, il était aussi plein d'un amour pour le Seigneur, il faut quand même lui reconnaître ça, et lui laisser ça comme une qualité première. Tu es le Christ. L'évangile de Matthieu développe un peu plus ce thème dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit, mais ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, mais mon Père qui est dans les cieux. Donc là, Pierre, ses yeux sont ouverts. Quelques instants avant, dans le récit, ils étaient là, ils étaient empêtrés dans leurs choses, dans considération, ils ne comprenaient pas ce que Jésus leur dit. Et puis, il y a cette guérison miraculeuse où Jésus fait voir un aveugle. Alors là, ça leur permet aux disciples de voir clairement qui tu es. Mais tu es le Christ. C'est une évidence. Et pourtant, juste après, dans le même texte, quelques versets plus loin, Jésus leur dit que le Christ, tel que les prophètes l'avaient annoncé, ça va être un Christ qui va souffrir. Et que lui-même, voilà, ça allait sans doute mal se terminer, l'aventure humaine. Alors Pierre dit, mais Seigneur, non, c'est pas possible. Tu peux pas dire des choses pareilles, tu vas casser l'ambiance, quoi, ou je sais pas, ou tu vas, tout le monde va s'en aller, personne va continuer à vouloir te suivre. Et alors Jésus dit, arrière de moi Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Juste avant, si on a lu la version de Marc et celle de Matthieu, Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, et Jésus lui a dit, ce ne sont pas les pensées des hommes, ça c'est les pensées de Dieu qui t'animent. Et quelques instants après, Pierre, bon, mais Seigneur, ça ne peut pas t'arriver, tu ne peux pas mourir, c'est pas possible. Là, ce que tu dis, là, ça, ce sont les pensées des hommes, ce ne sont pas les pensées de Dieu. Vous voyez comme ce chemin de la foi, il nous fait avancer, reculer, et des choses se passent, et petit à petit, la croissance arrive. Je trouve que cette séquence est magnifiquement construite par l'évangéliste pour nous faire comprendre toutes ces choses. Ce sont des récits qui sont mis là, et l'évangéliste, quand il écrit, il a choisi ce qu'il voulait mettre dans son évangile avec un dessein, avec une envie, une idée derrière la tête, si j'ose dire, dans ce monde qui, pour beaucoup, a rejeté l'idée même de Dieu. Peut-être qu'il y a 2 siècles, les choses auraient été à dire différemment, parce qu'il y avait, en tout cas dans notre pays, on baignait dans un univers où Dieu était présent. Alors, présent d'une manière qui ne nous satisferait peut-être pas aujourd'hui, présent d'une manière qui ne correspondait pas forcément à des engagements personnels. N'empêche que l'idée de Dieu existait. Aujourd'hui, l'idée de Dieu n'existe plus dans nos sociétés. Elle est évacuée. Et on dit que c'est de la sphère privée, chacun peut croire ce qu'il veut, mais ça ne concerne pas. Donc on est dans un monde qui est tout à fait différent. Et c'est parfois difficile, et c'est sûr que la sœur de Jean-Haut qui est capable de, dans le métro, ou je sais pas quoi, ou de faire comme ce qui nous a été dit là, c'est sans doute faire preuve d'une foi importante, extraordinaire, et que peut-être le Seigneur nous demande de nous engager vers ça, mais voilà, sachant que nous avons nos propres limitations. Il y a des gens qui disent, vous savez, ben moi j'y peux rien, moi j'ai pas la foi. Voilà. Toi, tu crois, vous avez sûrement rencontré des gens comme ça, vous leur dites que vous êtes chrétien, vous avez la foi, etc. Oh, bah, t'as de la chance, t'as de la foi, mais moi, j'ai pas la foi. Comme si c'était un machin qu'on reçoit à la naissance, quoi, ou je sais pas de quelle manière. Alors, c'est sûr qu'il y a certaines personnes qui, un jour, ont reçu quelque chose d'extraordinaire. L'apôtre Paul, qui, avec un éclair, tombe de son cheval, et pour lui, c'est une illumination, c'est le cas de le dire. Et il comprend plein de choses qu'il rejetait jusque-là. On parle souvent, vous savez, Paul Claudel, l'écrivain qui, pas trop convaincu par la foi chrétienne, mais qui assistait en curieux aux vêpres à Notre-Dame, un fameux 25 décembre 1886, et il dit « J'étais debout près du deuxième pilier, à droite, à côté de la sacristie, j'entendais les enfants de la maîtrise qui chantaient, et en un instant, mon cœur fut touché et je crus. » Voilà. Lui aussi, là, d'un seul coup, il a reçu quelque chose qui l'a fait basculer et qui lui a fait accéder à cette dimension de la foi. Mais pour chacun d'entre nous, ou en tout cas la plupart d'entre nous, en tout cas pour moi, ce sont des choses qui se passent de manière différente, ou petit à petit, simplement, on fait un pas en avant. Mais derrière tout cela, ce que nous avons à dire aux gens à qui nous parlons, c'est que Dieu nous cherche. Si un jour nous rencontrons le Christ, si un jour la foi vient en nous, si un jour elle peut grandir et provoquer des conversions chez les autres, c'est parce que notre Dieu lui-même est celui qui nous cherche. La Bible nous invite à chercher Dieu, mais nous dit aussi que Dieu nous cherche en permanence, qu'il cherche l'être humain, qu'il a envie d'avoir un contact avec lui. Je lis un extrait d'un psaume, psaume 34. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'arrache à toutes mes frayeurs. Quand on regarde à lui, on resplendit de joie. Le visage n'a pas à rougir. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. Ou ce beau texte du prophète Ésaïe, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme de rien ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui pardonne abondamment. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Alors qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que ça veut dire être des gens de peu de foi? Pas avoir suffisamment de foi? Il y a un texte dans les évangiles où les disciples vont voir Jésus et leur disent « Seigneur, augmente-nous la foi ». Donc c'est aussi quelque chose que nous sommes invités à souhaiter voir grandir en nous. Il faut aussi que nous en ayons envie parce que nous aimons le Seigneur, parce que nous lisons sa parole, parce qu'elle nous dit que le Seigneur peut faire des grandes choses et veut faire des grandes choses dans la vie de chacun d'entre nous. Alors tous ne sont pas évangélistes, tous ne seront pas pasteurs, certains garderont une activité tout à fait classique. Ça n'empêche que le Seigneur peut nous habiter par une foi qui va grandir et qui va véritablement transformer nos vies. Et je pense nombreux aujourd'hui ici pourraient dire que c'est quelque chose qui transforme véritablement les vies, qui réoriente complètement notre existence. Mais pour cela, c'est sûr qu'il faut que des gens se lèvent et puissent aller annoncer la parole de Dieu, parce que je pense que c'est dans cette parole que l'on trouve la source véritablement. Alors à travers de ces exemples dans les évangiles, je vous invite à relire tous les évangiles, à voir comment le Seigneur pendant quelques années, 3 ans sans doute, on pense, a formé ces gens qui venaient de milieux différents. Regardez d'où ils venaient, enfin entre certains qui étaient pêcheurs au bord du lac de Galilée, d'autres qui étaient un collecteur d'impôts, il y avait des gens qui venaient de toutes origines. Et il a pu les transformer et petit à petit les faire intégrer dans son plan de paix pour les hommes. Et après, ils sont allés répandre la bonne nouvelle dans tout le monde. Leur foi, comme notre foi, s'est travaillée, elle a grandi, parfois elle a fait des chutes, elle a été nourrie par les paroles du Christ. Alors eux, ils l'avaient en direct, si j'ose dire, et nous l'avons par le texte que nous lisons. Elle a besoin d'être confrontée à la réalité. L'épître de Jacques, lisez l'épître de Jacques, qui en permanence regarde entre la foi qui nous sauve et puis les œuvres qui manifestent que nous avons la foi. L'apôtre Paul a été l'apôtre de la foi en démontrant que ce ne sont pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais bien par la foi que nous avons en Jésus-Christ, par le fait que nous soyons capables de dire « je veux te suivre ». Où que tu veuilles m'emmener. Et certains disaient, on n'a rien à faire. Et l'apôtre Jacques dit, mais si, c'est dans la vie quotidienne que tout cela doit se traduire. Si tu dis que tu as la foi, mais que tu n'as pas les œuvres, qui va comprendre ce que ça veut dire que tu as la foi si tu ne mets pas en pratique toutes ces choses-là? Alors, pour terminer, deux textes encore. Dans l'Épître aux Hébreux, il y a le chapitre 11, termine toute une partie dogmatique de l'Épître aux Hébreux et nous montre tout un tas d'exemples de gens qui ont agi, grandi, manifesté leur foi. On a en particulier ce chapitre 11, là, la galerie des héros de la foi, comme on l'appelle. Et puis le chapitre 12 commence, nous donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, et c'est notre cas aussi, j'allais dire encore plus, qu'à l'époque où l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrivait ça, il écrivait ça en se référant à tous les héros de l'Ancien Testament. Mais nous, on peut rajouter tous ceux qui ont manifesté leur foi, des fois par des choses extraordinaires, sur les 20 siècles qui se sont écoulés depuis que le Christ a laissé les hommes sur terre. Toute la vie de l'Église nous montre des histoires de personnes qui ont vécu des choses absolument incroyables. Donc nous tous, environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons le péché qui nous enveloppe et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. C'est donc la vie qui nous est proposée, qui pour certains, effectivement, est une épreuve. Les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Et c'est ça le centre, et c'est ça le principal. Si nous lisons la parole de Dieu, c'est pour en connaître plus. C'est pour nous enrichir, mais principalement, c'est à chaque page, c'est pour retrouver le Christ lui-même qui se présente à nous quand nous lisons la parole de Dieu. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est bien sûr pour la chaleur humaine, c'est parce qu'on aime bien faire de la chanter ensemble, c'est parce qu'on a l'habitude d'être là le dimanche matin de 10h à midi, c'est pour toutes ces raisons qui ne sont pas que mauvaises d'ailleurs, mais c'est aussi parce que le Christ est présent ici. Et parce que ici, de façon un peu plus formelle, nous le rencontrons, mais nous pouvons aussi bien sûr le rencontrer chez nous. Et donc, le principal de tout cela, c'est quoi la foi? La foi, c'est ce désir d'accompagner Jésus et que Jésus nous accompagne et d'être vivant, d'être accompagné par lui qui est vivant dans notre vie de tous les jours pour que en nous, l'assurance de ces choses qu'on espère. Alors, c'est quoi les choses qu'on espère? C'est pas forcément d'avoir une plus belle voiture l'année prochaine que cette année. Je pense que vous comprenez bien que c'est pas de ça qu'il est question. Mais c'est l'assurance que tout ce que nous disons aujourd'hui, c'est pas du flan. C'est ça, en fait, la foi. Quand l'apôtre Paul dit dans son épître, dans l'épître aux Corinthiens, mais nous prêchons Christ ressuscité, parce que si Christ n'est pas ressuscité, tout ce qu'on vous raconte, c'est du bidon. C'est ça qu'il dit dans l'épître, à la fin de la première épître aux Corinthiens. Donc c'est cette assurance, ferme assurance, que Jésus est venu sur la terre, il a vécu. Il a vécu une vie particulière, faisant le bien. Il a été mis à mort, et 3 jours après, il est ressuscité. Et comme Pierre, nous sommes invités à regarder le tombeau et à voir que le tombeau est vide. Mais à partir de cette vision, non pas retourner chez nous en étant étonnés de ce qu'on a vu, mais faire comme a fait l'apôtre Jean, et il vit et il crut. Voilà ce que ça veut dire peut-être. En tout cas, ce sont les réflexions que j'ai eues. J'ai été frappé il n'y a pas très longtemps de voir que le Monseigneur Papin, qui est l'évêque de Nancy, a souhaité, je vais pas faire de la pub pour les cathos, c'est pas le sujet, encore que. Mais il a lancé 3 années avec un thème pastoral pour le diocèse de Nancy et de Toul. Comme je reçois un certain nombre d'informations, j'ai reçu ça. Et c'est repartir du Christ. Je trouve que c'est une très belle expression. Avec 2019-2020, connaître le Christ. 2020-2021, aimer le Christ. 2021-2022, imiter le Christ. Et je trouve que ce programme peut être notre programme, parce que c'est ça le centre de tout. Alors, avoir la foi, c'est effectivement ça. C'est souhaiter connaître le Christ, comprendre, connaître, voir comment ça impacte notre vie. C'est aimer le Christ, et c'est le dire, et c'est le manifester, et c'est le vivre. Et puis, imiter le Christ, c'est que nos vies puissent être des vies véritablement transformées. Voilà, je m'arrête là, sur ces quelques réflexions sur la foi. On pourrait évidemment en dire énormément plus. J'ai volontairement peu cité l'apôtre Paul, et si vous relisez effectivement les épîtres de l'apôtre Paul, vous en aurez beaucoup et beaucoup plus, mais ce n'était pas dans ce sens-là que j'avais envie de vous parler de ça. Et je vais juste terminer en lisant les quelques versets à la fin de la première épître de Pierre, et peut-être que quand il écrivait cela, il avait en tête cette parole de Jésus qui lui disait: Pierre, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas, parce que Satan a demandé à vous cribler comme le blé. Et à la fin de son épître, Pierre dit: soyez sobre, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. L'image n'est pas la même, mais le sens est que c'est pas facile de tenir bon dans la foi, dans la vie de tous les jours. Votre adversaire rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, soyez ferme en la foi, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Et le Dieu de toute grâce qui en Christ vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. À lui la puissance au siècle des siècles. Amen. On pourra chanter le... Ça, c'est...